Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
C'est parti pour un nouveau numéro de Bana Okapi, une émission exclusivement consacrée aux jeunes et plus jeunes sur Radio Okapi émettant depuis la ville de Kinshasa. Ce programme est financé par notre partenaire UNICEF. Bana Okapi nous ramène aujourd'hui à Pakajuma, dans la commune de Limete à Kinshasa. Depuis des décennies, Pakajuma est restée une enclave mal réputée à la suite de ses antivaleurs dont la prostitution, délinquance, viol, vol, violence physique, disputes. Mais à Pakajuma, elles sont aussi nombreuses ces adolescentes et jeunes filles qui abandonnent le commerce de sexe pour un métier plus honorable. Et c'est grâce à certaines associations locales, parmi lesquelles le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. À ces jours, 110 d'entre elles suivent depuis le 20 juillet courant les formations en divers métiers, la coupe et couture, esthétique, coiffure, informatique. Certaines ont appris à lire et à écrire. Mais quitter les milieux de la prostitution est un parcours long et difficile. Nous allons les savoir dans cette émission, mise en onde par Jean-Claude Ossiala, une présentation de Sarah Sumbela, réalisation et coproduction de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Bana Okapi se poursuit. Destination Pakajuma, un quartier de Kinshasa, réputé pour la prostitution qui s'y exerce. Des professionnels de sexe se battent pour arrêter de vendre leur corps. Avec l'aide d'une ONG locale, cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, crèche, elles ont résolu de faire le difficile parcours de sortie de la prostitution et trouver une profession de sens. Le crèche a mis en place depuis 2018 un programme d'apprentissage de métier pour l'autonomisation des victimes de la prostitution, en majorité les jeunes filles. Pour cette nouvelle session, commencée le 20 juillet, 135 personnes, dont 110 femmes, sont encadrées. Gisèle Cage, Miradi Fouengi et John Tsumpa ont visité les centres de formation à la Grasse. Voici leur reportage.
L'alphabet français est divisé en combien de parties ? Oui.
L'alphabet français est divisé en deux parties.
Très bien, l'alphabet français est divisé en deux parties. La première partie, nous avons quoi ?
Informateur face à des adolescentes et des jeunes filles habitantes de l'un des quartiers les plus populés et réputés de Kinshasa. Nous sommes au centre d'autonomisation La Grâce de l'ONG cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes installés en plein milieu du quartier Pakajuma. Un quartier connu pour le commerce du sexe qui s'y pratique fortement. Les apprenantes sont en majorité des anciennes professionnelles du sexe. La formation commence par l'alphabétisation, car à Pakajuma, de nombreuses personnes, pour la plupart des vendeuses du sexe, sont analphabètes. À 25 ans, celle que nous allons surnommer Alphonsine apprend pour la toute première fois les lettres de l'alphabet.
Alphabet français a 26 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, N, O, P, Q, R, R, W, X, Y, Z.
Une autre que nous surnommons Nino a été contrainte d'abandonner ses études à 16 ans parce que ses parents pauvres ne parvenaient plus à payer sa scolarité. Son seul issue pour survivre, c'était de se prostituer. Aujourd'hui, elle se bat pour tourner le dos au commerce du sexe. Mais quitter la prostitution est difficile. Ne pas y retourner est aussi difficile. Aujourd'hui, tout en apprenant l'alphabétisation, Nino se bat constamment contre ses vieux démons, car les hommes ne cessent de solliciter ses services.
Je veux apprendre le français pour connaître à parler,
à écrire, à faire aussi d'autres choses.
Avant, vous ne parliez pas français?
Non, j'ai essayé quand même.
Vous avez arrêté les études à quel âge?
À 16 ans.
Et vous étiez en quelle année?
J'étais en troisième, secondaire.
Ce que vous apprenez ici, ça vous aide au moins?
Oui, ça nous aide très.
Vous vous êtes beaucoup amélioré aujourd'hui, vous parlez mieux français qu'avant?
Oui.
Alors, dites-nous, il y a longtemps que vous vivez à Pacajuma?
2 ans.
Et quelle a été votre principale activité? Vous êtes prostituée, c'est ça?
Oui, il n'y a pas vraiment les choix.
Parce que vous êtes en manque d'argent, vous n'avez pas de famille, ou la famille est pauvre?
Il y a la famille, mais la famille n'a pas de moyens.
Vous étiez obligée de faire ce métier?
Oui.
Mais est-ce que pendant que vous êtes ici, vous continuez à exercer aussi à l'extérieur? Si un homme aujourd'hui vient vers vous, vous acceptez ou vous refusez? Depuis que vous êtes ici, il n'y a pas des hommes qui viennent vers vous pour vous solliciter?
Oui.
Et tu acceptes?
Non.
Ok, donc là, vous avez complètement abandonné?
Non, je n'ai pas abandonné. Bon, je m'aimais d'abord. Ah, si j'y vais...
Mais vous le faites plus souvent?
Oui.
Comme Nino, Mia, une autre survivante de la prostitution, a vécu une enfance et une jeunesse très difficiles. Négligence, maltraitance régulière, travaux domestiques intenses, manque de nourriture, manque d'habits, elle n'avait jamais reçu d'amour véritable. Elle a fini par répondre à l'appel d'une copine et a atterri dans le milieu de la prostitution. Après des années passées dans cet enfer, elle a pris son courage à deux mains et a franchi le pas vers une nouvelle vie. J'abandonne ces métiers, nous a-t-elle confié.
Na vanda ke pa batata mo sinangai makamna vuma nyoso te zaka pass kolia na ngai pass nyoso ko suma bilama na
je vis chez ma tante. Tout est difficile, même pour avoir les habits, c'est difficile. Ce sont des gens de bonne volonté qui mettent parfois avec les habits. Parfois je fais des tresses juste pour que je puisse m'acheter ce que je veux. Mes tantes ne me font pas étudier. Elles préfèrent envoyer leurs enfants à l'école, mais pas moi. Je reste à la maison pour tout faire. Finalement, j'ai commencé à me prostituer, mais la prostitution n'est pas faite pour moi. Quand j'ai appris que le centre La Grâce aidait les gens, je n'ai pas hésité de venir ici. Je me suis décidée d'abandonner la prostitution. Ce centre va changer ma vie.
Apprendre l'alphabétisation, c'est la première étape qu'offre le centre d'autonomisation La Grâce avant d'embrasser d'autres filières parmi lesquelles la coupe et couture, l'esthétique, l'informatique et l'art culinaire. Fallon Mayoke, directrice du centre La Grâce de l'ONG Crège.
On s'est dit, on est à un coin où les gens n'ont pas de niveau, n'ont pas étudié. Alors on s'est dit, avec un peu d'alphabétisation, question de les remonter un peu, ce serait important. Donc vous remarquez là, c'est vraiment l'alphabet, vraiment au début. Là, on a commencé avec le A, le B, parce que
ce sont des femmes qui n'ont jamais été à l'école.
Allées au banc de l'école, et qui ont du mal à écrire même leur propre nom. Du coup, on s'est dit, commencer à un niveau vraiment primaire, ce serait hyper important. Bon, après l'alphabétisation, généralement, on leur demande de choisir le métier à apprendre. Il y a d'autres qui optent pour la coupe couture, il y a d'autres qui optent pour l'esthétique et coiffure, il y a d'autres qui se disent aussi, moi aussi, je voulais apprendre l'ordinateur, comment manipuler. Il y a aussi l'informatique, mais à côté de ça, il y a aussi la fabrication de savons, on a aussi inclus l'art culinaire. C'est juste pour les rendre plus autonomes, les aider à avoir une autre style de vie.
Mais ça prend combien de temps la formation en alphabétisation?
Généralement, c'est 6 mois. La durée ici, c'est 6 mois. Bon, normalement, on pouvait même mettre ça à 3 mois, mais on s'est dit, les femmes ici, ce sont vraiment analphabètes, des gens qui n'ont rien appris. Donc, du coup, aller vite avec elles, ce ne serait pas vraiment les aider. On veut aller vraiment pas par pas et ça nous prend 6 mois. Parce qu'on veut vraiment qu'elles soient en mesure de sortir avec quelque chose ici. Après 6 mois, on a les jeunes dames qui savent écrire quand même quelque chose, qui savent quand même se défendre et se prostituer pour trouver de l'argent. Pour nous, on trouve que c'est un chemin très compliqué pour elles. On s'est dit, leur apprendre quand même quelque chose. La coupe couture, d'ailleurs, c'est mieux. Elle pourrait coudre des habits ou soit diminuer pour les gens les habits. Déjà avec 5 000, 10 000, elle peut bien survivre avec son enfant.
Le parcours pour sortir de la prostitution et faire une réinsertion sociale et professionnelle n'est pas facile. Certaines professionnelles du sexe se retractent au bout de quelques temps de formation. Mais pour les inciter à rester, le centre La Grâce a mis en place une stratégie. Fallon Mayoke.
on sait que leur vie, c'est la prostitution. Après, vous allez remarquer qu'il y a quand même d'entre elles qui amènent leurs enfants pendant le moment du cours. Pendant la pause ici, nous, on prépare aussi pour elles parfois la nourriture. Des fois, il y a la bouillie parce qu'on s'est dit, c'est nous qui leur avons demandé d'abandonner leur vie. Mais elles nous ont dit, madame, vous me demandez de venir suivre, mais après, comment je ferai pour nourrir mes enfants? Je n'ai rien. Il faudrait que j'aille me prostituer pour quelque chose. Mais il y a aussi d'autres qui viennent, qui se disent, mais ce qu'on me donne là-bas ne me suffit pas. Vous me donnez la bouillie, après je mangeais peut-être le riz. Moi, ce que je gagne là-bas, les 1000 francs, là, moi-même, je sais comment m'équilibrer avec mon enfant. Il y a d'autres aussi qui résistent. Mais il y a d'autres qui sont là, elles se disent, non, je suis là. Parce que, comme par exemple, la couture, c'est de 9h à 14h. Dans les temps-là qu'elle est ici, elle reste ici. Mais après, on a eu quand même des témoignages. Tu vois une jeune dame qui revient dire, madame, en tout cas, les temps que j'ai passé ici au centre, je ne vois plus pourquoi je veux continuer à me prostituer. D'ailleurs, de l'autre côté, j'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé tout mon corps, j'abuse de mon corps et tout. Des fois, elles font la prostitution pour les gens de leur famille. Il y a peut-être que tu quittes le village, tu viens là, c'est l'oncle qui te demande pour manger, il faut faire ça. Tu viens, tu trouves les enfants de l'oncle qui sont déjà dans la prostitution et tu es en fait conditionné. C'est une condition sine qua non pour toi que tu dois passer par là pour trouver à manger. Plusieurs d'entre elles nous ont partagé leur vie. Des fois, elles te disent, madame, si je me suis retrouvée dans la prostitution, ce n'est pas à cause de moi-même ou ce n'est pas quelque chose que je le voulais. J'étais au village et mon oncle, peut-être ma mère, m'a dit, viens ici. Et pensant que j'allais venir étudier, je viens ici, on me présente le style de vie.
Le centre d'autonomisation La Grâce ne s'occupe pas que de filles, mais également de garçons qui sont formés en informatique. La nouvelle session des formations a commencé depuis le 22 juillet. Depuis 2018, l'ONG CREJ a déjà formé plus de 500 anciennes vendeuses du sexe de Pacajuma. Parmi elles, deux jeunes filles formées en esthétique ont reçu une bourse pour renforcer leur connaissance en esthétique au Maroc. Une autre ancienne prostituée fait ses études à l'Université de sciences de l'information et de communication UNICIC, ex-UFASIC. Les frais académiques sont entièrement payés par l'ONG CREJ.
Merci à Gisèle Cage, Miradi Fouengi et John Chisumpa pour ce reportage. Vous êtes à l'école de Radio Okapi qui vous propose son magazine Bana Okapi. Aujourd'hui, nous rentrons à Pacajuma. Nous sommes au quartier Kingabwa, commune de Limété, pour parler de l'encadrement par le centre d'autonomisation La Grâce de jeunes filles qui étaient dans le commerce du sexe. Mais leur encadrement n'est pas aussi facile. La majorité n'ont pas été sur le banc de l'école. C'est ce que dit le formateur principal Bertie Beta. Il s'entretient avec Gisèle Cache.
Monsieur Bertie Babela, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes encadreur principal en alphabétisation française et formation en informatique. Et nous sommes ici au centre Grâce. Vous êtes en pleine formation. Vous êtes en train d'encadrer des jeunes. Dites-nous comment se passe l'encadrement, surtout en alphabétisation d'abord.
D'accord. Merci beaucoup d'abord de m'avoir accordé la parole. Côté alphabétisation, on fait un effort de donner le meilleur de nous. Parce que encadrer ces enfants aujourd'hui qui n'ont pas eu le temps de se mettre sur le banc des écoles, apprendre quelque chose dès le bas âge, mais leur apprendre à lire, à écrire, à parler, à un âge déjà avancé, ce n'est pas une chose qui est facile. Mais malgré ça, avec l'aide de Dieu et nos efforts, on se bat quand même. On les encadre beaucoup plus, comme je l'ai dit, sur la lecture et puis les calculs, voire même aussi le parler.
Est-ce que c'est facile pour vous de les encadrer? Parce qu'on sait quand même que ce sont des jeunes qui sont dans le commerce de sexe. Et aujourd'hui, vous les apprenez à lire et à écrire. Est-ce que c'est facile pour vous?
Je dirais non. En même temps, oui. Pourquoi non? Parce que, je viens de l'évoquer déjà, elles sont habituées d'autres choses. Elles n'ont pas aussi le temps de passer sur le banc des écoles à un âge approprié, mais les encadrer à un âge déjà avancé, pendant qu'elles ont d'autres idées en tête, ce n'est pas facile. Mais c'est quand même facile parce que on s'adapte, on s'est formé aussi pour ça. Et comme je l'ai dit aussi, Dieu nous soutient avec le temps, on produit quand même de bons résultats. On essaye vraiment d'améliorer, de nous rabaisser jusqu'à leur niveau pour remonter ensemble avec eux, utiliser des techniques appropriées, entre autres. Les vidéos, on fait des projections pour les aider quand même à comprendre parce que la personne a la facilité de de mieux comprendre ou mémoriser ce qu'ils voient par rapport à ce qu'ils écoutent. On s'adapte vraiment à d'autres technologies récentes pour faciliter cette formation. Et ça donne quand même de bons résultats.
Vous êtes quand même le formateur principal et vous avez commencé avec ces jeunes femmes depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a celles qui n'ont pas pu finir la formation et qui se sont rétractées par exemple et qui ne sont plus revenues?
Je dirais oui. Il y a celles qui ont commencé pour ne plus achever la formation et revenir peut-être dans d'autres sessions pour toujours abandonner. On a quand même bien enregistré certains de ces cas.
Mais elles abandonnent pourquoi? Quelles sont les raisons?
D'accord. Vous l'avez évoqué, ce n'est pas facile. Déjà, une personne qui est habituée à un autre service pour se mettre encore sur le monde des écoles et apprendre. On peut commencer. Et c'est là qu'ils se disent déjà de soi-même que, en tout cas, je ne saurais pas assumer, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Le ABC là, non, je ne sais pas. La première séance, elle travaille, deuxième, troisième, non, ici c'est pas mon niveau, et elles abandonnent, sans pour autant qu'on puisse même évoluer.
Mais celles qui ont été formées et qui ont fini leur formation, à leur tour, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est devenue leur vie? Ont-elles changé aujourd'hui? Est-ce qu'ont-elles aussi sensibilisé d'autres filles pour adhérer à ces formations?
Je pourrais facilement vous donner un cas qui est aujourd'hui devant moi. Elle a été en institution française avec moi, mais aujourd'hui, elle apprend l'informatique en français aussi. Donc elle sait déjà comprendre. Quand j'explique l'informatique en français, elle comprend des touches, des claviers. Il sait comment se comprendre, se donner aussi dans ce qu'on fait. Donc,
au début, elle ne connaissait rien du tout.
Elle ne connaissait pas.
Donc, elle a commencé au plus bas.
Au plus bas, pour s'améliorer et aujourd'hui parler. Si vous voulez aussi l'écouter, on peut l'interviewer aussi.
Pas de problème.
Aussi.
Est-ce qu'elle parle mieux aujourd'hui?
En tout cas, je suis fier d'elle. Elle parle
pas
mieux.
Pas seulement elle, mais aussi pour les autres.
Oui,
pour les gens qui ont été formés, par exemple.
Elle s'exprime, elle s'est débrouillée déjà en français. Là, c'est certain.
Et depuis que vous avez commencé à encadrer des jeunes femmes dans l'alphabétisation, combien sont passées par votre centre? Si vous avez une idée, au moins, le chiffre.
Bon, j'ai commencé cette formation dans ces centres depuis 2017, je crois. Et dans chaque promotion, je n'ai pas vraiment moins de 100 élèves. Souvent, j'ai deux classes pour des jours pairs et impairs. Donc souvent, on exige l'effectif de 50-50 par salle.
Elles sont permanentes?
Elles sont permanentes, régulières aussi. Celles qui ont la conscience, vraiment, sont permanentes lors de la formation. Okay. Se mettent aussi dans le travail. S'il y a des devoirs à domicile que je donne, le lendemain, j'ai aussi les devoirs faits, bien que pas correctement, mais quand même, il y a la conscience et l'implication dans ce qu'on fait.
Alors, monsieur Bertie Babela, merci.
Merci, madame. Alors,
il faut plusieurs suivis pour que les travailleuses du sexe de Pakajuma acceptent d'être encadrées. C'est ce que révèle Madame Kamwanya Kazadi, qui fait partie de formateurs. D'après elle, d'autres jeunes filles se rétractent quelques jours après les débuts de formation. Sans sou, elles choisissent de reprendre le commerce de sexe qui leur permet de survivre. Madame Kamwanya Kazadi au micro de Gisèle Cash.
Je réponds au nom de Madame Martinez Kamwanya Kazadi. Donc, je suis formateur au Centre La Grâce.
Et vous apprenez les jeunes filles ici de Pakajuma à l'esthétique?
Oui, nous apprenons à l'esthétique. Moi, je suis en esthétique, mais chez nous, en esthétique, on est divisé en deux parties. Il y a la partie coiffure et la partie esthétique. Et moi, je m'occupe de la partie esthétique qui consiste le maquillage, make-up, soins des visages, pédicure, manicure.
Mais comment ça se passe avec l'encadrement de ces jeunes filles? Ça se passe bien?
Bon, ça se passe bien. Certes, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile par ici avec ces filles parce qu'ils ont leur mentalité. Des fois, il faut être là derrière et tout, faire beaucoup de suivi. Ce sont pas vraiment des personnes avec toute conscience. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils viennent faire ici. Donc, il faut être là derrière pour booster, pour bousculer, pour booster un peu pour qu'ils soient actifs, pour que les filles soient actives avec vous. Mais après, ça se passe bien. On a toujours réussi à les amener dans ces belles là de la formation et voilà, ça évolue quand même bien.
Et elles apprennent vite?
Ça prend du temps. C'est pas toutes les filles qui apprennent de la même façon. Certaines apprennent vite et les autres aussi, ça va quand même un peu doucement. Mais c'est pas toutes les filles qui apprennent directement du coup comme ça. Et c'est pas toutes les filles qui sont ici avec le même niveau. Mais nous avons quand même Moi, personnellement, je me dis que mon objectif, c'est de les amener à un niveau. Donc, quand j'arrive ici, je trouve que les filles sont vraiment par terre. Il y a les filles qui ne savent encore rien faire et tout. Mais après, quand j'arrive, j'essaie quand même de les amener à un niveau. Donc, toutes les filles qui sortent ici peuvent quand même se débrouiller, peuvent quand même aller faire du maquillage, peuvent quand même trouver le travail dans n'importe quel salon et puis ils vont travailler. Mais au début, ce n'est pas tout le monde qui va avec le même mouvement. Nous allons mon lot avec eux.
Il y a celles qui se rétractent, par exemple, qui ont commencé et puis qui arrêtent au milieu.
Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand nous commençons, il y a la foule. Il y a vraiment la foule. C'est comme hier, d'ailleurs, il y avait beaucoup, parce que moi, je ne travaille pas tous les jours. Avec mon collègue, le professeur de la coiffure, nous avons 3 jours à chacun dans la semaine. Donc, nous travaillons pendant 6 jours, mais chacun a 3 jours. Et déjà, hier, mon collègue a dit aux filles que demain, nous aurons des... Bon, il avait mal compris, peut-être. Il a dit qu'il y aura des inspecteurs qui vont venir. Et il y avait beaucoup du monde. Et toutes ces filles sont parties. Donc, eux, ils ont peur d'être interrogés. La foule, donc, les gens, quand il y a des caméras, il y a des micros comme ça, ça fait peur. Elles ne veulent pas parler. Donc, on commence ici, on est débordé. Tu as mal à la tête parce qu'il y en a plein. Nous occupons même l'autre salle. Nous sommes là dehors. Mais après, un temps, vous parlez, les filles partent. Vous vous retrouvez qu'avec celles qui vont aller jusqu'à la fin de leur formation.
Elles se rétractent pourquoi, selon vous?
Bon, moi, je me dis qu'ici, c'est vraiment beaucoup plus problème de conscience, en fait.
Les filles ne savent...
Oui, et des survies aussi. Et après, les filles ne savent pas vraiment ce qu'ils viennent faire. Moi, par exemple, j'ai toujours dit aux filles que c'est grâce à ça. Si je n'avais pas choisi cette option de faire ce boulot, je n'aurais peut-être pas un travail aujourd'hui. Parce que vous venez certainement gratuit comme ça, mais moi, j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même une prime qu'on me remet chaque fin du mois. Donc, ça me permet aussi de prendre soin de moi et tout. Alors, les filles n'ont pas la conscience de ce qu'ils viennent apprendre. En fait, les métiers, c'est quelque chose de très important. D'abord, leur problème, en tout cas, c'est d'abord au niveau de la conscience. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Par exemple, quand on les appelle pour dire que venez, il y a la bouffe au centre, le centre est plein. Le centre, c'est plein à craquer, on manque des endroits où mettre les filles. Mais quand c'est pour l'avenir, quand c'est pour les études, ça devient difficile. Donc du coup, nous avons les devoirs de les former et après de faire beaucoup de suivi pour que les filles viennent. Donc je me dis qu'à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a un problème de survie aussi, mais c'est aussi problème de conscience. La majorité n'ont pas vraiment la conscience de ce qu'ils viennent chercher ici au centre.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame. Merci.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes très heureux de vous retrouver après les infos pour la seconde partie de Bana Okapi, l'émission des jeunes et plus jeunes sur Radio Okapi. Comme annoncé dans la première partie, Bana Okapi vous ramène aujourd'hui à Pakajuma, dans la commune de Limete à Kinshasa. Depuis des décennies, Pakajuma est restée une enclave mal réputée à la suite de ses antivaleurs dont la prostitution, délinquance, viol, vol, violence physique, disputes. Mais à Pakajuma, elles sont aussi nombreuses ces adolescentes et jeunes filles qui abandonnent le commerce du sexe pour un métier plus honorable. À ces jours, 110 d'entre elles suivent depuis le 20 juillet courant les formations en divers métiers. Mais quitter les milieux de la prostitution est un parcours long et difficile. Dans cette deuxième partie de votre émission, nous vous proposons notamment les témoignages d'anciennes travailleuses du sexe, réinsérées aujourd'hui dans la vie sociale et professionnelle. Je suis Sarah Sombella, Gisèle Cage coproduit et réalise ce programme financé par l'UNICEF. Okapi. Okapi. Bana Okapi se poursuit sur Radio Okapi. Du haut de ses 25 ans, Lafa Bessano se remémore sa vie mouvementée pleine de difficultés. Née dans une famille pauvre à l'âge de 14 ans, elle se lance dans la prostitution pour subvenir aux besoins de ses parents ainsi que ses frères. Sans une formation scolaire suffisante et sans soutien, il lui était impossible d'espérer à une meilleure vie jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'ONG Crège. Elle reprend ses études et aujourd'hui, elle est l'une des étudiantes de l'Université des sciences de l'information et de la communication INISIC, alors IFASIC. Son témoignage est poignant. Elle est au micro de Gisèle Cage.
Lafa Bessano, bonjour.
Bonjour.
Vous allez très bien?
Je vais très bien, par la grâce de Dieu.
D'accord. Vous êtes une ancienne professionnelle de sexe et aujourd'hui, vous êtes étudiante à l'UNISIC. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous avez commencé la prostitution jusqu'à vous retrouver aujourd'hui à l'UNISIC? Comment ça s'est passé?
Bon, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une grâce. Alors, de me faire rencontrer avec cette maman qui m'a enlevée dans cette vie. La maman Pascaline Zamunda, qui m'a enlevée dans cette vie que j'avais. Et puis, elle m'a donné la chance d'être à l'UNISIC aujourd'hui.
Parle-moi de votre enfance d'abord. Comment vous viviez avant et pourquoi vous avez opté, vous êtes allée vers la prostitution?
J'avais commencé cette vie à 14 ans. Quand j'avais vu que mes parents n'avaient pas de moyens pour me nourrir, pour aider aussi mes petites sœurs que j'avais, parce que j'ai trois petites sœurs qui sont derrière moi, que je prends charge d'eux, alors j'avais pas le choix. C'est pour cela que j'avais dit que donc, pour aider mes petites sœurs, il faut que je puisse aller dans cette ville-là.
À 14 ans?
À 14 ans.
Et vos parents n'ont rien dit en ce moment?
À ce moment-là, les parents n'avaient rien à dire parce qu'ils n'avaient rien comme argent pour nous nourrir, pour nous élever.
Donc c'est vous qui ramenez l'argent à la maison?
C'est moi qui ramenais l'argent à la maison. C'est moi qui nourrissais mes petites sœurs. Et c'est moi, je peux dire, c'est moi qui prendrais leur charge.
Qui prenait leur charge?
Oui.
Et puis finalement, donc de 14 ans, et quand est-ce que vous avez arrêté avec la prostitution?
J'avais arrêté avec la prostitution à 19 ans.
À 19 ans?
Oui, quand j'avais vu maman Pascaline Zamunda, qu'elle m'avait introduit avec des formations là, et c'est pour cela que j'avais arrêté cette vie.
Et comment vous vous êtes rencontrés?
Grâce à une maman qui s'appelait Bébé Bola. Souvent, s'il y a une ONG qui veut entrer ou intégrer à Pacajuma, il vient par sa porte et puis il frappe. C'est par là que j'avais connu maman Pascaline Zamunda.
Donc Pascaline Zamunda qui est responsable coordonnatrice de l'ONG Crège, voilà.
C'est par cela que j'avais rencontré ma Pascaline et puis elle m'avait, bon, je peux dire,
Elle m'avait sensibilisé
et puis elle m'avait amené dans une formation là et c'est par là que j'avais vu que non, il faut que je laisse cette vie et je puisse aussi chercher vie dans une autre façon.
Ok, mais est-ce que c'était facile pour vous d'abandonner ce métier? Quand même, de 14 ans à 19 ans, est-ce que c'était facile qu'on vous dise non, il faut arrêter, il faut peut-être apprendre un métier et gagner honorablement sa vie? C'était facile pour vous d'accepter?
Bon, pour moi, c'était pas vraiment facile parce que j'avais même pas une autre option à faire. Donc, c'est par là que j'ai nourri ma famille, c'est par là que je faisais tout. Donc, c'était pas facile, mais du moins, j'avais quand même forcé.
Et quand vous avez commencé la formation, comment était devenue votre vie? Et comment était devenue la vie de vos parents et de vos frères? Parce qu'en ce moment-là, est-ce que vous avez abandonné directement avec la prostitution? Ou bien vous étiez en train de suivre la formation, en même temps, continuer avec le métier?
Bon, dire que laisser ça facilement, c'était pas facile. Je peux dire que quand je suivais la formation, entre-temps, je faisais.
Ok.
Et puis, à un moment, j'avais décidé de laisser parce que en faisant ça, j'avais eu un enfant que je ne connais même pas son père. Alors,
jusqu'aujourd'hui.
Alors, c'est moi, Pascaline Zamunda, qui élève cet enfant et qui lui aussi donnait grâce d'aller à l'école.
Et quand vous avez commencé, vous avez la formation, vous avez commencé par quoi exactement? L'alphabétisation?
J'avais commencé par l'alphabétisation et puis j'avais allé dans une école pour chercher mon diplôme d'État. Et puis, c'est par là qu'ma Pascaline a appris que non, j'ai mon diplôme d'État. C'est par là qu'elle m'avait dit d'aller à l'IFASIC.
Et c'est elle qui a financé vos études?
Bon, j'ai vendé et elle m'aidait aussi.
Et vous vendiez quoi?
Du poisson fumé. J'ai fait aussi des poissons à griller, c'est ça.
Ok.
C'est elle qui m'avait donné les fonds.
Ok. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à UNISIC. C'est une autre vie aussi.
Oui.
Comment ça se passe?
Bon, auparavant, c'était pas facile, mais pour le moment, je me suis quand même habituée. Dieu fait sa grâce, donc ça marche aussi bien.
Et vous vous sentez à l'aise, les études que vous faites?
Je me sens à l'aise parce que c'était aussi mon rêve, l'une de mes rêves. Je disais que non, quand je serai grande, il faut que je sois une journaliste, mais aussi, il faut que je fasse droit.
Okay.
C'est ce que j'ai.
Donc, vous voulez faire le droit ou bien le journalisme? C'était ça, vous?
C'était mon rêve.
Voilà.
C'était ça, mon rêve. Donc, à me retrouver à l'IFASIC, à l'INISIC, je peux dire. Donc, je vois, c'est comme si Dieu exaucait mes prières.
Mais les gens autour de vous, des étudiantes qui sont autour de vous, certainement vous avez aussi d'autres connaissances, est-ce qu'ils sont au courant de votre histoire? Vous avez le courage de leur parler d'où vous venez et de là où vous êtes actuellement?
Quand j'étais la nouvelle à l'INISIC, j'avais vraiment honte de parler de ma vie, parce que ce n'est pas une bonne vie. Mais avec des formations que ma Pascal m'avait données, donc je suis obligée de partager ma vie pour que les autres ne puissent pas le faire.
Vous dites que c'est pas une vie facile.
C'est pas une vie facile.
Comment? Explique-nous un peu. Comment elle n'est pas facile, la prostitution?
La prostitution, c'est pas facile parce que comment est-ce que tu peux t'exposer dans une nuit avec 5, 6, même 10 garçons, 10 hommes? Non, c'est pas facile, maman. Ceux qui font, ils ne font pas par leur propre volonté. Ils les font parce qu'ils n'ont pas moyen. Même les enfants qui sont introduits dans cette vie comme moi, à même âge que moi, ils les font parce que dans ce milieu, il y a une, je peux dire, chez nous on dit, au pétiolier. Donc ce côté, tu ne vas pas manger. Même si tu as tes parents. Donc, toi, tu es obligé d'amener quelque chose.
De contribuer.
Tes parents vont aussi donner quelque chose et puis ils vont manger.
Mais vous n'avez pas été poussé par vos parents?
Non.
Pas du tout. Alors, maintenant, quand vous racontez votre vie à vos collègues de l'UNISIC, qu'est-ce qu'ils disent ou bien qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce que vous parlez de vous aux femmes ou également aux hommes?
Uniquement aux femmes.
Et qu'est-ce qu'elles disent?
Bon, souvent, les autres se manquent de moi. Alors, les autres aussi me comprennent.
Vous se moquez de vous dans quel sens?
Parce que j'étais vendeuse de sexe.
Et elles disent quoi?
Elles disent que non, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas une bonne vie. Donc, les autres m'insultent en face.
Pour dire quoi?
Pour dire que ce n'est pas une bonne vie pour une femme de vendre sa sexe pour avoir à manger, pour avoir des habits, pour aider sa famille. Donc, beaucoup disent de mal.
Là, c'est à l'UNISIC.
À l'UNISIC, oui. Mais...
Et comment vous recevez ça? Cette humiliation, est-ce que vous sentez en vous un découragement? La colère, le découragement?
Des fois, je me fâche. Ouais. De les laisser là où elles étaient, et puis je pars. Alors, okay. S'il y a quelqu'un qui me comprend, elle va me suivre et puis me consoler.
Et vous êtes faite des amis à l'UNISIC?
Non, je n'ai pas vraiment des amis.
Pourquoi? Elle se méfie de vous ou bien?
Elle se méfie de moi, parce que je n'avais pas une bonne vie auparavant. Et c'est par là que je me suis décidée de rester à mon coin.
Donc chaque fois que vous êtes à l'université, vous êtes isolée?
Je suis isolée. Je suis seule. J'ai fait tous mes TP seuls. Je risque même le TP des groupes de ne pas faire avec les amis parce qu'ils se méfient de moi. Donc je suis seule. Et c'est par là que j'avais pris une décision de ne plus raconter ma vie. De laisser ma vie pour moi-même. C'est comme une secret.
Ok, mais quand... Elle vous regarde, est-ce que c'est avec un regard méprisant? Elles n'ont toujours pas changé de regard, ça fait quand même deux ans que vous étudiez. Elles n'ont pas changé de regard envers vous?
Je peux dire en LD, ils ont quand même changé de regard, malgré je ne m'approche pas d'eux.
Et ils ne vous parlent pas?
Non, je perdais, mais ils ont quand même changé de regard.
Vous avez
mais en L1, j'étais vraiment mal à l'aise. En elle, hein, j'étais vraiment mal à l'aise. Mal à l'aise, je dis.
Donc, et les professeurs, ils connaissent votre histoire?
Non, je ne m'approche pas d'eux, ni les assistants.
Donc, jusqu'aujourd'hui, on peut dire que les moqueries continuent?
Je peux dire ça.
Personne ne vous soutient?
Personne, sauf mon CP. Okay. Si j'ai un problème, je vais vers lui, j'aurai une solution. Sauf les CP.
Est-ce que vous sentez en vous un découragement au regard de tout ça? Ou vous vous dites, je vais continuer à me battre?
Non, je ne peux pas me décourager.
Donc vous irez jusqu'au bout?
J'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'a changé ma personnalité,
okay.
A changé mon nom.
Ok. Mais quelles sont vos ambitions après l'UNICIC? Qu'allez-vous faire?
Bon, après l'UNICIC, moi je ne rêve pas des médias. Je rêve suivre le chemin d'Emma Pascaline Zamonde pour aider aussi aux autres.
Donc aider d'autres filles, oui. Et adolescentes
qui ont même vie comme moi.
Qui ont mené même vie comme moi.
Mm-hmm. Qui demeurent dans cette vie.
Mm-hmm.
Donc, ça sera facile pour moi. Comme je suis née là, grandie là, ça sera facile pour moi de les convaincre. C'est ce que je rêve comme vie.
Ok. Alors, vous avez déjà un enfant?
Oui, j'ai un enfant à l'âge de 8 ans.
Ok. Mais maintenant, comment vivre? Vous êtes devenue étudiante? C'est vrai qu'à la charge de Madame Pascaline Zamunda, et votre enfant aussi étudie.
Oui.
Quelle est devenue la vie de vos frères et de vos sœurs, et notamment la vie de vos parents? Est-ce que finalement, ils arrivent à s'en sortir?
Bon. Maman, c'est bas quand même, parce que j'avais perdu mon papa à la... Bon, mon papa nous avait quittés depuis 2020. Mm-hmm. Mais pour le moment, ma maman, c'est bas quand même. Elle vend du pain et puis pour aider les autres qui sont derrière.
Ok. Et vous habitez toujours avec maman?
Oui, je suis toujours avec maman.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes filles, et notamment des adolescentes, hein, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à se prostituer? Quel est le message que vous pouvez leur transmettre?
Les messages que je peux leur transmettre et que de l'air découragé de cette vie.
Pour de laisser,
s'en sortir,
quoi.
Oui. Pour s'en sortir, c'est pas dit seulement il faut vendre du sexe.
Mm-hmm.
Pour s'en sortir, tu peux vendre même du pain. Moi, j'avais pas ce rêve. J'avais pas cette idée. Mais pour le moment, on m'a transmis. Donc, tu peux vendre du pain. Tu peux vendre même de l'eau pour t'en sortir.
Mm.
Donc, quant à moi, j'ai l'air de courage de ne plus continuer cette vie.
Okay.
S'il y a moyen de vendre, elle peut vendre. S'il y a moyen de continuer même l'école, elle peut. Elle peut frapper des autres portes. Elle aura seulement de l'aide. Surtout avec beaucoup des ONG que je vois. Elle aura seulement de l'aide.
D'accord. Alors, Lafa, Bessano,
oui.
Je vous dis merci beaucoup pour ce témoignage poignant et je vous souhaite bon courage.
Merci.
D'accord.
C'était Lafa Bessano, étudiante à l'UNICIC, aujourd'hui alors que hier elle était travailleuse du sexe.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
On rentre à Pakajuma. Cette fois-ci, Bado Okapi vous invite à découvrir Yvette Tchanda, vingtaine révolue. Elle a commencé à se prostituer à l'âge de 15 ans. Mais à la suite de la maltraitance de son oncle, elle n'avait qu'une idée en tête: quitter le domicile de son parental pour refaire sa vie ailleurs. Quitter la prostitution, retrouver une vie normale, je voulais arrêter avec la prostitution, a-t-elle déclaré. Et grâce à une amie, elle a pu rejoindre le centre d'autonomisation La Grâce, où elle a appris l'esthétique. Aujourd'hui, elle a obtenu une bourse pour poursuivre sa formation au Maroc. Elle s'entretient avec Gisèle Cash.
Tchanda, Yvette, bonjour.
Bonjour madame.
Vous allez très bien?
Oui, je vais bien.
D'accord. On vous trouve ici au centre La Grâce. Et qu'est-ce que vous faites ici?
Oui, je suivais les formations ici. D'ailleurs, je suis bénéficiaire du bienfaisance de ce centre de CAECH. Oui.
C'est vous la boursière?
Oui.
Visiblement, vous êtes très contente.
Mais oui, très contente.
Parle-nous de votre vie, de ce que vous faisiez avant et comment vous vous êtes retrouvée dans ces centres et jusqu'à avoir une bourse aujourd'hui pour le Maroc.
Ah ben, merci beaucoup. Pour commencer, d'abord, quand mon père est mort, j'avais 15 ans. Je me suis trouvée dans la rue.
Ici
en Kinshasa, Pakadjouma. J'ai commencé à me prostituer pour avoir à manger et gagner le pain, quoi. Et après ça, il y a une amie ici à moi, Mado, on était avec elle là-bas. On vivait dans cette ville-là. Une ville très sale. Oui. Après, elle s'est retrouvée ici, je ne sais pas comment. Et un jour, je suis allée lui demander quelque chose, une jupe comme ça, une jupe courte, pour aller dans une manifestation avec mes amis, là où on devrait aller faire nos bêtises. Elle m'a dit, non, moi, je ne vais plus là-bas, je ne fais plus cette vie, j'ai déjà changé. J'ai dit, quoi, tu te moques de moi, quoi? Elle m'a dit, non, sérieux, tu viens, je vais te montrer. J'ai dit, non, tu mens, tu es en train de me saboter, tu mens. Elle m'a dit, non, si tu veux, tu viens avec moi demain. Et le lendemain, je me suis préparée. Quand elle est venue, je l'ai suivie. Et arrivée ici, j'ai trouvé Madame Pascaline qui était en train de donner des conseils aux filles et aux filles mères. Bon, j'ai adhéré au centre. Je me suis intégrée. On m'a inscrite.
Là, c'était en quelle année? Et vous aviez quel âge en ce moment-là?
Oui, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Quand je suis arrivée ici, j'avais 19 ans. Oui, 19 ans que je suis arrivée ici. Et je me suis inscrite.
C'est à 15 ans que vous avez commencé la prostitution?
Oui, j'ai commencé.
Après la mort de votre papa?
Oui, j'ai commencé la prostitution. Après, j'ai eu un enfant dans cette ville-là. Oui, sans le vouloir. Oui. Après, je me suis retrouvée ici. On m'a inscrite, on ne m'a rien demandé. Je croyais peut-être qu'on allait me demander quelque chose. On ne m'avait rien demandé à l'époque. Et puis, j'ai suivi d'abord les formations de français. Parce que quand je suis arrivée ici, j'étais nulle.
Vous ne parliez même pas français?
Je ne parlais pas, je ne savais rien du tout.
Donc avant, vous n'avez jamais été à l'école, même pendant que votre père était encore vivant?
Non, juste avant que papa, j'étais juste en 6e primaire. Okay. Mais je ne savais rien. Okay. Oui, bon.
Enfant, vous pensez parler, écrire?
Enfant, parler, écrire et puis me défendre, je ne savais rien. Oui, parce que moi, je viens du village.
De quel village?
Boujmaï. Okay. Oui. J'étais là-bas et puis quand j'ai quitté, quand mon père est mort, je me suis retrouvée ici chez mon oncle et puis il m'a dit non, ici c'est quand tu donnes l'argent, tu manges, quand tu ne donnes pas, tu ne manges pas.
Ah, donc vous devriez aussi contribuer?
Oui, c'est ça. Et quand dans cette ville-là de contribuer, je me suis trouvée à Pakadjouma, faire la prostitution pour gagner mon pain, quoi.
Vous avez quitté chez votre oncle?
Oui, j'ai quitté là-bas parce que là-bas, quand tu donnes, tu manges, quand tu ne donnes pas, tu ne manges pas. Tu contribues même pour payer les loyers. Oui, quand j'ai quitté là-bas, je suis retrouvée ici. Je me suis intégrée en français. J'ai suivi la formation. Et puis après 6 mois, oui, j'ai réussi à l'examen. J'ai passé. J'ai continué avec la formation de l'esthétique. C'est là, en 2024, entre 2023-2024. Oui.
Là, et puis, pendant combien de temps la formation en esthétique?
C'était 9 mois.
9 mois de formation.
9 mois, oui. Et quand on a fini, j'ai reçu. J'étais lauréate. Oui, on m'a annoncé que j'ai réussi la bourse. Je suis vraiment très contente. C'était une surprise pour moi. Bon, je ne m'attendais pas parce que je suis venue comme les autres. Et puis voilà, je me trouve ici avec les examens et tout. Je me suis donnée à fond. J'ai fait de mon mieux. Vraiment, mon souhait était d'arriver jusqu'au bout. Oui, parce que je voulais quitter cette ville-là. Je n'aimais pas du tout. Je le faisais juste pour gagner à manger, avoir quelque chose.
Pour les besoins économiques.
C'est ça même. Voilà. Et après ça, quand je me suis retrouvée, si je me suis accrochée vraiment à fond, j'ai travaillé dur, que ce soit avec les formations d'esthétique, les stages. Je me suis donnée de tout mon cœur. Donc, mon souhait était d'arriver. Quand Madame Pascaline nous avait dit non, il faut travailler dur parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Et je me suis donné, voilà aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je ne sais pas quoi dire en tout cas, même jusque-là, j'arrive pas à croire que j'ai quitté des Pakadjouma pour aller à Maroc et abandonner cette ville-là de prostitution. Et bon, jusqu'ici, moi-même, je ne crois pas. Même ce que je suis en train de dire, même les Français que je parle, je ne crois pas toujours que c'est moi. Même dans la famille, quand j'arrive là-bas, je parle les Français, les gens ne croient pas. Oui, même quand j'ai annoncé aux autres que je réussis, ils ne croient pas que je vais aller au Maroc. Même moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tout pour moi, je ne sais pas si ce que Dieu a fait. Ma vie a basculé de la prostitution et à une femme professionnelle dans une formation. Bon, ça, je ne crois pas, je n'arrive pas à croire jusque-là.
Je vous comprends.
Merci. Alors,
aujourd'hui, après l'esthétique, avant même d'aller au Maroc, vous suivez encore une autre formation en informatique.
Oui.
Visiblement, vous ne voulez pas lâcher.
Lâcher pourquoi? Parce que tout ici est gratuit, je ne paye rien. Pourquoi pas le temps de rester à la maison.
En profiter au maximum.
Oui, je viens ici apprendre l'informatique et après-midi, je pars travailler quand même parce que là, je travaille dans un salon en ville.
Ah, dans un salon de coiffure.
Oui.
Donc, on peut dire aujourd'hui, votre vie a complètement changé. Vous avez abandonné le commerce de sexe et vous avez maintenant un métier noble.
Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis
honorable.
Je suis autonome. Je me défends. Juste en travaillant, je gagne mon argent, propre argent. Un argent propre qui n'est pas un argent sale en vendant mon corps pour en échange de l'argent. Je ne fais plus cette vie-là et je suis fière. Je profite aussi pour inviter aussi d'autres filles ou d'autres femmes qui, comme moi, qui vivent dans cette ville-là, qui vivent encore dans cette ville-là, comme moi, j'étais aussi. Je les supplie et je les appelle de tout mon cœur qu'ils viennent apprendre, qu'ils apprennent les formations, qu'ils apprennent le métier. Oui, bon.
Qu'ils soient aussi autonomes.
Qu'ils soient aussi autonomes, qu'ils cessent de se prostituer pour gagner de l'argent. Mais je profite aussi pour dire, il y a aussi des femmes qui n'est pas du tout prostituées, comme moi je me trouvais à Pacajuma, qui est juste chez elle, mais elle se prostitue parce qu'elle ne sait pas quoi faire pour avoir à manger ou pour gagner de l'argent. Oui, je les invite à suivre aussi les formations comme moi et devenir aussi ce que je suis devenue.
Mais les jeunes filles qui sont encore dans ce métier, qu'est-ce qu'elles disent en vous voyant? Elles disent quoi? Vous habitez jusqu'à aujourd'hui?
J'habite toujours là-bas parce que c'est moi qui fais, je fais intégrer aussi d'autres filles ici.
Ah, d'accord.
Mon souci est que...
Donc vous les sensibilisez?
Oui, bien sûr, chaque fois je les fais volontiers. Je pars et je les montre mon exemple. Et regardez, aujourd'hui je vais voyager tout, je suis devenue autonome. Même beaucoup qui me voient, ils sont surpris. Beaucoup ici, c'est moi, ils m'ont suivi.
Okay.
Oui.
Vous les avez vraiment sensibilisés?
Vraiment de tout cœur, je fais de tout mon mieux qu'ils cessent de vendre leur corps en échange de l'argent.
Mais quand elles vous voient, elles disent quoi? Elles sont fières de vous? Elles sont jalouses? Elles sont... qu'est-ce qu'elles disent réellement?
Bon, beaucoup, la majorité sont fières de moi.
Okay.
La majorité qui sont ici sont fières de moi. Même là où nous sommes, beaucoup aussi, même les mamans, les mamans aussi, j'ai aussi appelé les mamans qui sont ici. Il y a aussi là-bas les mamans qui se prostituent vraiment pour gagner de l'argent. Toutes ces dames, je les ai appelées, ils sont ici avec nous. Mais beaucoup aussi, bon, ils s'en foutent, comme ceux qui viennent du village précisément, ceux qui viennent des provinces de Chopo et je ne sais pas quoi. Équateur, oui, ceux qui viennent d'arriver, bon, ils s'en foutent parce qu'ils croient que c'est le mensonge. Arriver jusqu'à ce point ici, parler le français pour eux, c'est difficile. Oui, mais plusieurs aussi me suivent, ils sont fiers de moi.
Est-ce que c'est facile pour vous d'amener d'autres jeunes filles comme vous ici dans ces centres? Quels sont les défis auxquels vous faites face quand vous allez sensibiliser d'autres filles à venir ici suivre la formation?
Bon, beaucoup se demandent, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'on ne va pas nous demander l'argent au million, arriver au million? On ne va pas nous demander l'argent? Ah non, c'est du mensonge. Vous êtes en train de mentir. J'ai toujours l'habitude de les dire non. Moi, comme vous, j'étais aussi l'une de vous plutôt. Et voilà, aujourd'hui, ce que je suis. Venez, vous allez apprendre gratuit. Et un autre avantage, c'est quoi ici? Quand vous apprenez, et à la fin de la formation, vers 13h, 14h, on nous donne la nourriture, on nous donne à manger. Donc, on nous évite un peu...
De retourner dans cette vie de monde.
Oui, au lieu d'aller encore se prostituer pour encore gagner de l'argent et puis revenir demain et apprendre les formations, on vous donne à manger. Quand vous avez dans un problème avec l'argent, on va vous aider ici. Vous avez dans les besoins. Comme moi, quand j'étais malade, c'est la centre qui a pris soin de moi. Oui, on m'a tout donné, les médicaments et tout. Ça fait que...
Mais après le Maroc, vous allez retourner au pays? C'est ça?
Mais bien sûr.
Alors, pour faire quoi? Quelles sont vos ambitions? Si on peut connaître vos projets d'avenir.
Ah oui. Je pars apprendre pour venir aussi former les autres. Je viens construire mon pays. Je viens contribuer à la construction de mon pays. Au fait, je viendrai aussi soutenir cette œuvre que Mme Pascalie est en train de faire. Oui, je viendrai soutenir dans quel sens? D'abord, je pars avec cette souhait, avec cette envie d'aller apprendre beaucoup pour venir exploiter aussi dans mon pays. C'est-à-dire,
Ouvrir votre, mettre en place votre propre business, votre salon.
Pas du tout salon.
Vous pensez à quoi?
Je pense à quelque chose de grand.
Quoi par exemple?
Comme suivre les mêmes exemples comme ma maman Pascaline.
Encadrer d'autres filles.
Encadrer
aussi.
D'autres filles, créer les emplois, c'est ça même.
Ok, donc des filles vulnérables.
Oui.
Toujours des Pakadjouma ou bien vous voyez un peu plus loin aussi?
Je vois Pakadjouma, je vois aussi d'autres milliers là-bas. Kingaboa, au fond là-bas, il y a aussi d'autres femmes qui ont besoin de nous. C'est ce que je vise vraiment.
Tchanda Yvette, je vous remercie et surtout bonne chance. Hein,
merci. Merci.
Pour l'avenir.
Merci beaucoup.
C'était Yvette Tchanda, l'une de boursières du Centre La Grâce, qui sera bientôt au Maroc pour poursuivre sa formation en esthétique. Elle était au micro de Gisèle Cage.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
La proposition de la création du centre d'autonomisation est venue de professionnels de sexe et elles ont en même temps proposé les filières des formations. Ce programme ne se contente pas seulement de changer des vies individuelles, il façonne également un avenir plus résilient pour les anciennes professionnelles du sexe. Madame Fallon Mayo, qui est directrice du centre d'autonomisation, La Grâce, nous parle du début de ce projet qui a connu de nombreux défis. Suivez.
Madame Fallon Mayoke, bonjour.
Bonjour.
Ça fait combien de temps que ces centres existent?
Bon, les centres existent depuis 2017, ici en plein milieu du quartier Pakadjouma. L'idée est venue du fait que d'abord on avait commencé avec notre partenaire mondial UNFPA. On est arrivé à Pakadjouma, on voulait travailler dans le sens de la santé et de la reproduction. On est venu avec un projet avec UNFPA, c'était question d'aider ces jeunes dames dans leur procréation, de leur montrer en fait comment on gère le cycle menstruel, comment planifier ses grossesses, comment et tout. On est venu à l'idée de ça parce qu'on avait justement appris qu'à Pakadjouma, il y avait vraiment ces phénomènes-là de la prostitution qui battaient le plein. On s'est dit on pouvait commencer là. Mais arrivé, on a vu qu'il y avait aussi des besoins énormes. Pour déjà approcher ces jeunes dames avec le projet de UNFPA, c'était compliqué. Parce que ces dames, en tout cas, elles avaient tendance à se méfier de nous. Elles se disaient, regardez-vous, vous êtes belles, vous parlez un bon français, vous n'êtes pas comme nous. Nous, on est dans la misère, on est vulnérables, on n'est pas comme vous. Elle avait tendance à résister, mais après on les a approchés. Non, devenir comme vous, comme nous, on pouvait devenir. C'est possible que vous changez aussi. Vous voyez, vous êtes dans la prostitution, mais est-ce que vous avez voulu, c'est le travail que vous avez voulu vous-même? Non, elles ont répondu non, c'est pas ce qu'on a opté. La vie, les situations de la vie nous ont orienté dans cette vie. Alors c'est comme ça que petit à petit on a commencé à les approcher. Il y avait quelques-unes d'entre elles qui commençaient à s'ouvrir et à parler d'elles, que moi, si je me retrouve dans la prostitution, c'est parce que j'ai quitté mon village, je suis arrivée, on m'a dit que j'étais venue pour étudier, arrivée ici, il y avait l'oncle qui m'a demandé de faire ça, il y a l'autre qui t'a dit non, je suis arrivée, il y a mon oncle qui me dit va, tu dois commencer à vendre du drogue et tout. Après, je me suis retrouvée dans cette vie où je me vois dans un quartier où il n'y a que des délinquants, alors j'avais pas d'option, j'ai adhéré dans ça. Mais Madame Pascaline est allée plus loin pour leur demander, mais vous voulez qu'on vous aide comment? C'est vrai qu'on est venu vous montrer comment planifier vos grossesses, comment avoir des enfants quand vous voulez et tout, comment se protéger même des IST et MST. Mais nous pouvons aussi vous aider autrement si vous le voulez. C'est comme ça qu'elles-mêmes ont proposé que si vous voulez vraiment nous aider, on aura besoin que vous puissiez mettre en place un centre de formation où on pourra quand même venir apprendre beaucoup de choses, les métiers, mais aussi apprendre à lire et à parler. C'est là d'ailleurs est venue l'idée d'instaurer, de créer ces centres de la grâce. Le nom de la grâce, c'est eux-mêmes qui ont choisi le nom parce qu'elles se disent, nous on a trouvé grâce, madame est venue comme ça, donc c'est Dieu qui a tout planifié. Elles ont donné le nom du centre et après elles nous ont demandé de mettre à place toutes ces filières. C'est comme ça qu'on est arrivé.
Ah, donc c'est elles-mêmes qui ont choisi.
C'est elles-mêmes qui ont choisi que nous puissions les aider dans ces sens aussi.
Il y a la coupe et couture.
Elles ont proposé que nous puissions mettre en place la coupe couture, l'esthétique et coiffure, qu'il y ait même de l'informatique, parce qu'il y avait d'entre elles, celles qui ont parlé que non, nous on adore quand on voit une jeune dame à la télé, elle est en train de manipuler l'ordinateur, vous voyez, elle parle, elle est posée et tout, on voudrait aussi devenir comme ces dames-là. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on leur a demandé, on peut mettre l'informatique, non, oui, oui, ça aussi. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du centre avec Madame Pascaline, qui est bien évidemment la coordonnatrice.
Parlez-nous un peu de vos débuts, comment ça a été, est-ce qu'il y avait un engouement tout au début?
Non, mais c'est comme on dit toujours en français, que le début n'a pas toujours été facile. Les débuts, certes, il y avait l'engouement. Elles sont venues à l'idée, non, il y a une jeune dame qui est venue là-bas, il y a une ONG qui est là, qui veut nous aider dans les sens. Mais quand elles sont arrivées, et avec l'initiative de leur donner la bouillie à manger, elles étaient là. Mais quand on devait maintenant leur apprendre comment évoluer en formation et tout, pour plusieurs maintenant, ça commençait à être difficile. Parce qu'il y a d'autres qui disent, bon, je n'ai jamais été au banc de l'école, et du coup, on me dit, on doit m'apprendre le A, les B, les C, et apprendre ça chaque jour, la lecture. Il y avait ce complexe-là, où elle se sentait bloquée quelque part. Il y avait d'autres qui commençaient à dire, non, mais chaque jour avec l'alphabet, chaque jour on doit, parce qu'on a d'abord commencé avec l'alphabétisation, il faudrait mentionner ça. Et pour elle, c'était en tout cas compliqué. Et avec le temps, 2 mois, elle commençait à fuir. Alors, ça n'a pas été facile pour nous, du moment où on devait commencer à les suivre maintenant chez elle, faire des suivis, aller les suivre. Maman, mais pourquoi tu ne viens plus? Tu vois, elle te dit, madame, Nazo Koukate, je n'arrive pas à être là et à voir que je me bats d'abord pour que mon enfant aille à l'école. Et c'est encore moi qu'on demande d'apprendre le A et le B. Je trouve que l'âge que j'ai, je pense à beaucoup de choses. Je cherche comment avoir l'argent. Je me dis, je suis calée dans la prostitution. Je pense comment est-ce que le partenaire viendra le soir. Et je dois aussi commencer à apprendre le français. Je trouve que je n'arrive pas. Et il y avait un nombre vraiment réduit qui était là. Il y avait ici, vous commencez avec l'effectif de 100, mais après ça diminuait. C'était vraiment un pyramide où ça baissait en tout cas sans relâche. Alors on n'a pas baissé, c'est vrai au début, ça commençait même à nous décourager, mais comment est-ce que nous on est là pour aider et ces gens-là ne veulent pas, elles nous montrent pas vraiment, elles ont de la volonté. Et alors l'idée est venue de ne pas baisser, de continuer, on a vraiment persévéré. Il faut dire que ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps. Et avec le temps, les peu qu'on a commencé avec au début, c'était une vingtaine. Et elles commençaient à s'améliorer. Et elles nous ont maintenant aidés à aller se servir ou se présenter comme modèle aux autres. Regardez, vous êtes reculés. Nous, on a foncé. Et vous voyez que ce qu'on est aujourd'hui, on commence quand même à parler. Regarde, je peux écrire mon nom. Et alors, avec ces stratégies, les autres, oh, mais elle, on est venu avec elle. Aujourd'hui, elle peut écrire son nom. Aujourd'hui, elle peut quand même parler parce qu'on a créé à côté.
C'était vraiment des femmes analphabètes.
C'était vraiment des femmes analphabètes. Et on a créé, on a fait de celles qui étaient restées de pères éducateurs. Ça veut dire qu'on les a formées aussi pour maintenant commencer à descendre sur terrain, sensibiliser les autres. Vous voyez que moi aussi, j'étais dans cette vie comme vous. Et donc, aujourd'hui, je peux parler, je peux écrire mon nom. Et c'est comme ça qu'on a aussi plus le reste qui commençait maintenant à venir. Et jusqu'aujourd'hui, on est ici. Okay.
Mais si vous pouvez évaluer les activités de ce centre, est-ce une réussite aujourd'hui?
Alors, s'il faut évaluer, moi je dirais que c'est vraiment une réussite totale. Parce que j'ai vu nos débuts, j'ai vu là où on est aujourd'hui, j'ai vu toutes ces mondes-là des femmes qu'on a encadrées aujourd'hui, qui aujourd'hui se comportent comme des grandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas à toutes les femmes où on a donné de l'argent. J'ai vu d'autres, elles sont venues apprendre, c'est faire indépendante, apprendre l'autonomisation. Aujourd'hui, elles sont en train peut-être de vendre du pain. Aujourd'hui, il y a d'autres qui vendent, tu vois, quand tu sors, Madame Fallon, j'ai créé cette boutique pour moi, je suis en train de vendre tout ça aussi. Tout ce que vous m'avez appris là-bas, ça servit à quelque chose. Et aujourd'hui, on en est fiers, en tout cas. Alors moi, je dirais que c'est vraiment une réussite. On a réussi. Quand bien même, il y a aussi cette large partie qui reste encore. Et on est encore là. On n'est pas fatigué.
Mais est-ce que vous formez aussi des adolescentes?
Oui, parce que déjà à Pakajuma, la vie sexuelle commence à l'âge de 9 ans. La petite fille est là et elle voit sa mère en train de se prostituer. Et elle, comme elle ne part pas à l'école, elle n'a rien. Bon, pour elle, déjà, l'idée en tête, c'est moi aussi, je veux faire comme ma mère. Je veux évoluer comme ça. Et vous voyez, pour celles qui sont un peu courageuses, quand il y a des partenaires de la mère qui vient et la maman n'est pas là, elle s'en occupe. Elle dit non, mais je fais le travail de ma mère parce qu'elle n'est pas là. Moi-même, je prends la place de ma mère. Donc, à 9 ans déjà, ça commence. Donc, nous, ici, on enregistre à partir de 10 ans des gens. Si la fille vient, elle se présente, nous, on dit on va récupérer. Comme on commence déjà avec la formation en santé de la reproduction, on la cadre d'abord là. On la montre comment, on la parle de ses cycles mensuels, comment on devient femme, comment est-ce qu'on arrive jusqu'à avoir la grossesse. En tout cas, on réinsère dans ces sens. Et après, à 15 ans, à 16 ans, elle a dit, tu peux opter pour l'alphabétisation. Après, elle peut aller dans d'autres filières.
Elles sont combien les formées, au fait, depuis 2017, combien des adolescentes, des jeunes, et notamment parce que vous formez aussi les mamans qui sont passées par ces centres, combien ont été formées dans divers métiers dont l'alphabétisation, l'esthétique, la coupe et couture.
Bon, s'il faut dire le nombre exact, je ne saurais pas, mais je dis on a dépassé 500. C'est plus de 500. Non, il faut dire même c'est plus de 500. On a vraiment eu encadré. S'il faudrait même que j'insère celles-là qui commençaient à venir au début, mais après elles ont lâché. Après, on a fait encore la suivi. On a dit non, il faut persister. En tout cas, le nombre est énorme.
Les sacs que nous voyons ici, ce sont elles qui les ont fabriquées.
Elles ont fabriqué parce qu'on dit la partie coupe et couture, on insère aussi une partie qu'on appelle la customisation, où on montre aux jeunes dames comment fabriquer des sacs en panne, comment faire des boucles d'oreilles en panne. Parce qu'on voit aujourd'hui, dans notre pays, ça surquille quand même. Il y a des jeunes dames qui veulent être en africaine et tout. On leur montre comment créer ça. Et c'est vraiment aussi rentable. C'est quand elles fabriquent un sac comme ça, on vend à pas moins de 20 dollars. Si c'est accompagné des babouches, ça fait complet, c'est dans le 25, 30, c'est déjà de l'argent.
Madame Fallon Mayoke est une fois de plus notre invitée. Elle nous parle notamment de défis rencontrés dans l'encadrement des anciennes professionnelles du sexe.
Quels sont les grands défis que vous rencontrez ou bien que vous avez rencontrés dans l'encadrement de ces professionnels de sexe?
Bon, les défis sont énormes. Déjà, je veux énumérer quelques-uns. Moi, je dirais que depuis que je suis dans ces centres, c'est moi, en fait, qui est comme la directrice et je reçois de cas et de cas. Il y a des jeunes dames qui, des fois, elles viennent vous partager leurs histoires, leur vie. Vous partagez également à la coordonnatrice, à la fondatrice du centre. Vous sentez que vous êtes calée. Vous aurez peut-être besoin d'aider d'une autre manière, d'une autre sens, soit donner de l'argent. Mais on dit, on n'a pas assez. On n'a pas grand-chose à leur donner. Il y a d'autres qui viennent avec des complications médicales, avec des santé où c'est déjà même l'appareil génital qui est déjà en problème. Mais vous sentez calé. Vous ne savez pas comment faire. On est limité dans d'autres sens aussi.
Parce qu'il n'y a pas de moyens.
Parce qu'il n'y a pas de moyens. On peut dire, on veut aider, mais aider comment? S'il faut seulement compter à Madame Pascaline. Oui, des fois, on a des partenaires qui viennent nous aider, mais eux aussi, c'est temporaire, c'est momentané. Des fois, ils viennent, des fois, pouf, ils ne viennent plus. Donc, les défis ici, c'est compliqué. Des fois aussi, vous avez la jeune dame qui est là, elle est venue, par exemple, elle opte pour l'alphabétisation, mais vous manquez aussi d'autres matériels. Il y a aussi ce problème des matériels ici. Des fois, on manque. Vous avez des fois, on limite même le nombre d'inscriptions parce qu'on s'est dit, on n'a pas assez de machines en couture. Vous avez par exemple 20 machines, 30 machines, vous avez l'effectif de 50. Elles vont travailler comment? 3-3 dans une machine. C'est compliqué. Des fois aussi, on a des problèmes, il faut payer les formateurs. C'est Madame Pascaline qui leur paye chaque mois. Et quand celle-là, elle est bloquée, c'est compliqué. Parce que ces jeunes gens ici aussi ont des familles, des formateurs là. Ils ont des familles, ils doivent nourrir leur famille. Et s'il faut commencer à leur dire chaque fois que c'est moi ici, on n'a rien. Chez moi ici, c'est moi ici, on n'a rien à vous donner, mais ça va compliquer le travail aussi. Donc on a aussi de complications ici. Mais le tout ce que nous on met en tête, c'est aider ces gens. On veut vraiment qu'elles apprennent beaucoup et que quand elles donnent leur témoignage, comme j'ai entendu Yvette en train de parler, moi je me dis j'ai ma part de fierté parce que j'ai travaillé aussi, j'étais là. J'ai vu comment est-ce qu'elle est venue, j'ai vu comment est-ce qu'elle est aujourd'hui et je me dis qu'on est fiers. On a quand même pu faire quelque chose.
Okay. Mais alors, il y a une autre question. Nous avons vu des femmes venir avec leur bébé. Elles viennent pour apprendre la coupe et couture, l'esthétique et notamment l'alphabétisation. Comment vous faites pour le maintenir? Est-ce qu'elles apprennent en même temps, elles continuent à exercer leur métier de prostitution ou elles ont complètement abandonnées, où elles viennent, elles apprennent, et quand elles retournent à Pakadjuma ou à Kawele, elles continuent avec leur activité quotidienne.
Il faudrait dire que celles qui optent pour suivre la formation, généralement celles que moi je connaisse, elles arrêtent, elles abandonnent la vie. Parce que des fois quand on est ici, on voit, elles viennent avec leur requête. Madame, depuis ces temps j'ai opté pour la formation, je ne me prostitue plus. Alors aidez-moi des fois avec 2000 francs. Des fois donc quand on vient ici, si tu as ton sac, tu as quand même un petit rien. Tu sais que j'aurai des demandes. J'aurai des gens qui ne sont plus dans cette vie qui vont venir me solliciter pour de l'argent. Mais la majorité d'entre elles ont abandonné. Celles qui ne veulent pas arrêter, on remarque que ça commence et quand elle poursuit avec la formation, elle combine, vous allez voir à un moment, elle arrête carrément. Ou elle vient vous voir, madame, j'ai vraiment la volonté de continuer, mais les conditions. J'ai des enfants, j'ai la charge, j'ai pas de famille. Là où je dors, ma tante me demande de contribuer. Alors si je n'ai rien, je ne saurais comment faire. Je veux apprendre. Mais il y a cette condition-là qui me bloque.
Okay. Alors, madame Fallon Mayoke, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, madame.
Madame Fallon Mayoke, directrice du Centre d'autonomisation La Grâce, s'entretenait avec Gisèle Cage. C'est donc à Pakadjuma Alimete que nous bouclons ce numéro du magazine Bana Okapi sur Radio Okapi. La formation professionnelle, la réinsertion sociale et professionnelle des anciennes travailleuses du sexe de Pakadjuma était au menu de votre émission produite et réalisée par Gisèle Cage. Des jeunes filles anciennes travailleuses du sexe se sont reconverties pour des métiers honorables. Elles sont estimées à plus de 500 qui mènent aujourd'hui une vie saine. Tout ceci grâce à certaines organisations, parmi lesquelles le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes, CREJ. Cette émission a été supervisée par Jean-Marc Matouaki. Je suis Sarah Sumbela, mise en nom de Jean-Claude Siala. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiocapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi et à l'émission Bana Okapi. Restez branchés à l'écoute de votre radio car les programmes continuent. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien et surtout, merci de continuer à faire confiance à votre radio.